Radio Spirale. En septembre 2012, le Norrois conviait ses fidèles lecteurs à la librairie Olivieri pour une lecture d'œuvres récentes de ses poètes. On retrouvera donc ici Catherine Godin, Jocelyne Felks, Céline Fortin et Jean-Marc Lefebvre.
Bien, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette première lecture de la saison des éditions du Norrois. Merci à la librairie Olivieri qui nous accueille encore une fois après toutes ces années en poésie. Merci à la librairie et à tout le personnel qui nous accueille. Merci également à Radio Spirale qui fait la captation de cette lecture et qui sera disponible sur le site de Radio Spirale après léger travail de notre ami Mathieu Arsenault qui fait la captation. Et donc, il sera disponible sur le site de Radio Spirale dans quelques semaines. Alors ce soir, nous entendrons cinq poètes, Catherine Godin, Les chers étranges, Jean-Marc Lefebvre, Illuminer les cendres, Jocelyne Felks, Le nord des heures, Céline Fortin, Femme infrangible, pardon. Et pour commencer, quelques mots d'une poète mexicaine que nous avons publiée au printemps dernier. Sylvia Castillero est la cinquième poète d'origine mexicaine que nous publions aux éditions du Norrois, après Marco Antonio Campos, Sylvia Pratt, Pedro Serrano et José Luis Rivas. Peu à peu, donc, notre fond s'enrichit de toutes ces voix d'ailleurs et pourtant si proches de nous. Je vous lis un extrait de Héloïse, qui est le livre de Sylvia Castillero, enfin l'ouverture. Héloïse attend. Un silence de quille de navire fend les eaux, traverse chaque tracé du temps. Là, en suspens, une goutte s'allonge, tandis que l'attente inachevée pend à un fil. Ce peut être une branche entourée de vide, de ce néant qui reste prisonnier et aspire à chavirer dans quelque chose, à tomber enfin, à se rompre. Ici, on est dans la voix d'une narratrice qui découvre Héloïse et la légende d'Héloïse et Abélard, couple célébré depuis le Moyen-Âge, qui commence par la passion charnelle et se termine dans la spiritualité. C'est-à-dire que la poète marche dans les traces d'Héloïse, à la fois comme document historique, mais aussi comme déambulation dans Paris. La traduction de François-Michel Durazzo est fidèle à l'esprit des lieux, la magie se mêle au quotidien, et le voyage dans la mémoire découvre d'autres méandres à traverser. Le souvenir est sans armes contre ce vautour silencieux. Au milieu des feuilles mortes et de la poussière, il assaille l'intérieur que tu as dépeuplé. Il fouille au plus vif les fines confiseries qui battaient dans mes veines chaque fois que tu annonçais ton arrivée. Puis il blesse de ses serres maladroites les baisers jetés sur la table et les chaises en allant vers la chambre. Incisif, il se jette sur les viscères les plus intimes et le bec refermé sur mon cœur, il abandonne la maison, il fuit les autres vautours qui osent à peine s'approcher. En voilà Héloïse de Sylvia Castillero. Maintenant, la première lectrice de ce soir, Catherine Godin. Avec les chers étranges, elle donne un deuxième livre à la fois différent et dans la continuité des premiers mots publiés. Je vous lis le début de Bleu soudain tout simplement ici. Vous n'êtes pas certain. Vous savez, mais vous n'êtes pas certain. Vous ressentez à la fois savoir et incertain. Ce que vous ressentez ne ressemble pas au doute, simplement, la sensation n'est pas claire. Sur cette route, la voix tout à coup devient narrative après l'espace fragmenté et vertical de la suite Les chers étranges. Poème incisif et chantant. La poète y explore les sens. On peut y voir une forêt dans la chevelure profonde. Des haleines fécondes génèrent une parole des sensations, une parole de la chair, du corps ardent de l'amour. « Forêt, mon amour, » écrit-elle, et s'ouvre plus largement au végétal aussi bien qu'à l'animal, le lecteur est étonné à chaque mouvement par les possibilités métaphoriques d'une expérience qui se poursuit. Catherine?
Entre tes grandes moires, tu ne sais plus cette lenteur des choses où tu marches. Tu ne sais plus que toujours la même aube te regarde. Comme tu l'implores, tends-lui les bras, tout ton corps, la tête enfouie, fomente, toujours plus grande, ta reddition. Il n'y a jamais que ce traversement, des aspérités, gestes, parmi les fleurs, sans connaissance. Depuis les astres où tu marches et bruis, respire le rêve des millénaires, qu'infusent tous les pollens, nimbés, étourdis, dans la rotation de la terre, tu plonges, t'effaces, te recommences. La première section de bleu. Vous êtes sur une route parmi tant d'autres, de celles qui mènent, de celles qui déroutent pour quelques heures ou pour une vie. Cette route avale autant de minutes que de kilomètres de fuite, mais en ce jour précis, elle vous mène où il n'y a plus de fuite. Vous roulez et vous voyez au loin devant comme la route entaille la chair des plaines et des vallées, comme elle a mordu les forêts, comme on lui aura fait déchirer les montagnes. Elle dessine un ruban sombre, un collier argenté serti de petites perles disparates et colorées, s'illuminant le soir venu pour charmer les étoiles. Ses scintillements charment sur tous les hommes. La route, le travail des mains d'hommes. Les hommes trouvent la terre si belle qu'ils ne peuvent s'empêcher de la marquer profondément. Ainsi, marquent-ils le monde sur lequel ils polluent leur fuite ad nauseam? Ils vivent rarement, meurent beaucoup. Mais ce chemin d'homme n'est pas n'importe lequel, non. Cette route-ci, vous la connaissez depuis l'enfance. Elle vous berce, elle vous transporte. Elle vous transporte d'une plaine trop cultivée, trop sage, de petites rangées en petits carrés verts, blonds, verts, taillés, torturés jusqu'à mûrs ou morts pour nourrir ce que deviennent les hommes. Non, ce n'est pas n'importe quelle route. Celle-ci vous reconnaît, vous. Elle vous transporte comme le sang amène l'oxygène dans votre corps. Elle vous respire et vous charrie gentiment, sans encombre. Elle vous respire comme vous respirez. Elle vous attendait. Elle vous attendait. Vous arrivez. Vous arrivez près des montagnes rondes, adoucies par les caresses millénaires. Vous arrivez au bord d'une mer de mamelons bleus, ondulant de part et d'autre de ce ruban sombre qui semble mouvant. Les montagnes vous entourent et vous soulèvent. Au long de ce collier, elles vous font la fête d'air frais avalé. Elles vous pressent les oreilles d'entendre leurs clameurs bleues, sauvages. Elles vous pressent de vertiges mauves sous la course haute et changeant des nuages cotonneux filant aussi vite que vous roulez. En pleine poitrine du monde, les montagnes vous exaucent sur la trace ancienne de la langue du glacier, dans le souvenir du rêve de la terre rêvé pour vous. Elle vous murmure cette mémoire brassant le monde comme elle vous embrasse à ne plus avoir assez de souffle, à ne plus avoir assez de souffle, à ne plus avoir assez d'yeux pour vous emplir d'elle toute. Et alors qu'elle vous embrasse, votre cœur s'emballe. Voici la terre, voici la terre, voici la rumeur du grand fleuve éperdue dans ce bonheur de sein si bleu, doucement, Le fleuve s'ouvre, il s'ouvre, et sa bouche à la mer.
Merci Catherine. Le nouveau livre de Jean-Marc Lefebvre reste fidèle à son chemin, discret. Non pas voix basse, mais voix dépouillée et chercheuse, publiant avec cette nécessité de la quête intérieure qui m'a toujours ému chez lui, parce qu'elle donne, sous apparence de simplicité, une dynamique complexe, un combat des profondeurs en quelque sorte, où tout soudain il n'est plus de passé. Des racines certes demeurent, alors que ce sont les mots qui font bouger la chambre des morts. Une basse continue chante dans notre oreille. « Je te bénis, silence », écrit-il. « Restons un peu avec ce silence. »
Merci. Ben, je veux dire que c'est un livre que j'ai écrit et que je vais dédier la lecture à ma mère et à ma famille. Et à vous tous. Je connais peu les départs, les arrivées, mais l'attente, l'âme comme un quai de gare. Je porte mes habits de fonction. Là est mon atelier. Un saule, un fleuve, une disparition. Au pied du vent, le paysage respire. On n'écrit jamais seul. J'écoute bouger les alentours. Les ormes inquiets retiennent le sol. Le regard s'aiguise, met en joue l'usure et le rituel, tire la poésie de la gorge du monde. Dès l'aube, le martèlement des mots, la pulsation d'un monde mené de force. Nous voici devant une agonie, parmi les derniers vestiges de l'indifférence, alors que s'effondre le cours des choses. Vois comme les corps aspirent la moindre lueur. Je prends la mesure des horaires, un journal sans prose, du silence à la sève. Je regarde tomber les feuilles, cherche le clair chemin jusqu'à la chute des fruits. Février, une poésie de peu de mots. Au fond, tout reste tendre. On redécouvre ses gencives. On mord doucement la pulpe des mots. L'entaille est belle, vive et gorgée de plaisir. Je parle moins de ce qui m'échappe. J'entre dans le murmure et tue le personnage. La colère est un aveu que je pardonne. Tout n'a pas eu lieu. Je suis passé, je n'ai pas appelé avant. Cet appétit de vérité, d'enfance un peu sale, fatigué des façades. Tu ouvres. Tu n'as pas mis tes cheveux ni ton autre visage. Heureuse de me voir, tu me racontes le désordre. C'est toujours l'histoire d'un enfant qui souffre. Je vois ton corps, verrière fragile, abandonné à sa lumière. Les fontanelles couvertes de soie, le battement des inquiétudes. La fiction du miroir mise à l'épreuve. si le souffle n'était pas si avide, nos silences se chargeraient-ils de l'odeur des blés? Retrouverons-nous les châles chauds du vent, ses caresses? Ce soir, la lumière a déposé sur le balcon la rumeur du quartier. Tout va bien. J'ai pris le soleil dans le creux de ma main. J'ai colmaté la brèche. Les parents sont si seuls. Tout va bien, tu le sais, j'ai mangé ma famille. Une lumière, naît du profil de ton visage. Ce qui me touche a toujours un centre. La deuxième partie, c'est en souvenir de mon père. Le temps a forgé la courbure de ta nuque, t'a ravi le chant des mains. J'écoute ce que je t'ai, une écriture de veille. J'aborde les images comme si je les quittais. Les heures passent, petite ponctuation en manque de souffle. Je t'écris sous un arbre où voyage le silence. Je crois qu'il y a toujours un chemin. Les murs entre nous n'isolent pas le chagrin. Ma patience s'étire. Je t'avais demandé des récits de jeunesse, mais ta langue recousue et cette fureur au fond d'une oubliette, fauve impuissant devant le vitrail du poème. Plus loin que moi, je te suis, dans les éclats, les dossiers. J'invente un espace de percale, un jardin sous la peau, une truite entre les dents, des amarres de soie. J'accumule les opéras, réserve des jours sans lendemain. Soudain, te voilà silence et souillé. Ton corps, pelure d'oignon. Tu sais la douleur nécessaire pour ne pas fendre la peau et le sourire qu'il faut pour désamorcer la honte. Un fils rentre chez lui quand il est reconnu. Je te prends dans mes bras, te prépare à la nuit, cargue les voiles d'ombres et de murmures. Une vie enfermée dans l'échec du langage. Ton visage désormais touche à l'exil. Merci.
Merci Jean-Marc. Illuminer les cendres donc. Jocelyne Felks a un parcours constant depuis 30 ans. Elle a été critique, anthologiste. Son regard sur la poésie est particulier et unique. Récemment, il a signé la présentation et le choix dans l'œuvre de Rina Lagnier. Son point de vue y est original. Elle remet cette poète à l'heure du jour. Elle situe très bien la pertinence de cette œuvre, dans la modernité comme dans la continuité humaniste. Le Nord des Heures est un 8e titre original publié par le Norrois. Son œuvre a été récompensée par plusieurs prix. Elle-même, dirais-je, se situe d'emblée dans une filiation poétique humaniste, ce qui n'exclut jamais l'exploration formelle. Ici, le chant très ancien du poème rejoue les sonorités de l'âme chercheuse, qui en appelle à la beauté du poème pour vivre dans le monde. Les poèmes évoquent l'écoulement des jours et des mois, on s'y promène de découverte en découverte, le réel et son train quotidien font naître une réflexion sur l'insécurité du changement et sur la pesanteur de la responsabilité. L'ensemble des tâches qui remplissent la journée n'exclut pas la fenêtre ouverte sur les déchirements humains, sociaux et politiques. Les sonnets du jardin rendent le vent audible avec humour. On peut fermer la radio et la télé, le maire le chante. Jocelyne Felks.
tout d'abord, traduit par Françoise Delphi dans une édition bilingue des Poésies complètes d'Emily Dickinson, les 8 vers du poème 14, auquel fait référence Le Nord des Heures. C'est comme si je demandais l'aumône et que dans ma main étonnée, un étranger mettait un royaume et que j'en sois abasourdi. C'est comme si je demandais à l'Orient s'il avait un matin pour moi et qu'il lève ses digues de pourpre et me fracasse d'aube. L'aube symbolise certainement ici le bonheur absolu, placé bien haut au-dessus de tous nos petits bonheurs d'occasion. Voici les 3 premières pages du Nord des Heures. Je ne sais pas ce que sera l'aube. Le chant guttural du jet nous brise chaque matin depuis quelques jours. Rien de paisible ne subsiste. C'est novembre, sans l'odeur de ce qui pousse quand il pleut un peu. Nous, naufragés sous les étoiles. La nuit plante ses clous d'or. Il y a semaison d'étoiles en après-midi. Liberté diminuée par la saison. Le merle a fugué vers les terres du jour. Nous restent les piaillements des bruants dont les arbres sont toisons. Les feuilles comme des chiens de garde sur le pas des portes. Les étoiles scintillent dont l'encrier s'en fond. Repose la main invisible du marché. Rien n'empêchera le huard de voler plus haut. C'est l'heure où les gestionnaires d'actifs, les bailleurs de fonds, maîtres, est-ce vérité, retournent aux maisons. Or, voit-il, au-delà des arêtes des toits, le temple de la lune, ses marches à gravir dans l'ombre. Et s'il fallait qu'un ange, avec ses ailes de feuilles, traverse à rebours le temps pour pousser ses cravatés, leur argent et ses pompes vers le lieu des moindres choses. Enfin, dirions-nous, cette marche à tâtons vers un système d'inclusion sociale et de bonheur universel. Mais les sentiments n'ont pas encore trouvé cette aile. Sans remords sont les technocrates devant l'effondrement du rêve. Un vent glacial a attaqué les nids. Le bec doré de l'étourneau sans sonnet tourne au noir. Nous, nous ajustons nos montres pour revenir à l'heure normale, avec la patience de continuer à vivre le reste selon l'ordre ordinaire, visant l'équilibre des faiblesses entre gonflement et épuisement du capital. Alors je termine par 3 sonnets qui, contrairement aux sonnets classiques, comptent 7 rimes plutôt que 5, accordant une plus grande musicalité et aussi une liberté au point de vue lexical. On accuse souvent le sonnet de masquer le manque d'inspiration sous les observances mécaniques. À vous d'en juger. Le premier sonnet s'intitule Flamme, et il évoque, entre autres, les jeunes heures de la vieillesse. Donc, voici une porte et son marteau de bois, une clé pour entrer, mais ce n'est pas la bonne. Il y a des vérités que l'âge abandonne. Mais toi, ne ferme pas la maison dans les bois, les abeilles dans la dentelle bourdonnante, l'écureuil à voix rauque et à manteau de loup, le chardonneret jaune et son petit tu. L'équation dans le ciel que le soir ensanglante lance ses inconnus dessus les toits nocturnes. Au milieu des cendres, les étoiles, une à une, marquent un grand territoire à la fois plein et creux, de sorte que monte ma chevelure en flamme, et soudain avec toi notre chambre a une âme. Comme le rêve est court, mais comme il est heureux. Le deuxième poème est une partie de Soccer, au temps des hirondelles. Hirondelle. Loin de la clôture, vois le marteau-piqueur du pic chevelu et toutes ses hirondelles sur la trame indigo. Elles créent entre elles un motif, puis agitent en des ébats frondeurs leurs ailes noires, tandis qu'au sol, les joueurs portent des maillots blancs bordés chacun d'un chiffre. Le 1 garde le but. Dans l'air, on joue du fifre. Le 7, le 9, le 11 rudoie le défenseur qui relance l'attaque. Une faute est commise. Toutes les soccer moms louent la soudaine brise. C'est la canicule et la première mi-temps. Le ballon mûrit dans la bulle de l'enfance. C'est le fruit parfait de la saison des vacances. Il emprunte à l'herbe son parfum pénétrant. Et enfin, le dernier sonnet, puisqu'elles sont si jolies sur la page couverture, les oies. Et bien sûr, ici, les consonnes cacardes. Dans l'immense automne, dessus les feuilles froides, les oies funambules au fil des méridiens embrouillent les cartes des astrophysiciens. La caste migratrice se passe en enfilade. Oh, comme elles esquivent les libres arabesques! Les oies n'ont pas conquis l'agilité de l'air. Leur chant indocile dégoûterait Schubert. Chorale des grèves, l'avancée piou-piouesque. Les formations en V, attirées par la vase, suspendent la volée. L'étang est une base de ravitaillement entre les nénuphars, aux feuilles presque rondes où l'oison se repose. Les voilà reparties dans le matin blafard. Leur amour est à 16, si courtes les pauses. Merci.
Merci Jocelyne. Et enfin, c'est un honneur de publier des poèmes de la poète Céline Fortin, cofondatrice des Éditions du Noroi, dans notre collection Ovale, qui est dédiée, comme vous le savez, aux classiques de notre poésie. Touche à tout et créatrice de la vie au quotidien, elle a conçu de nombreuses maquettes de livres, tant au Noroi qu'aux Heures Bleues. Son œuvre picturale compte de nombreuses réalisations, expositions de groupe ou solo, dont une rétrospective de ses livres et livres d'artistes, à la Sarre et à Sorel en 2000. Depuis 2003, elle dirige la collection Le Dire aux éditions Les Heures Bleues. Femme infrangible est donc un choix très judicieux de Jean-Chapdelaine Gagnon de son parcours poétique. Je pense qu'on redécouvre dans cette anthologie une femme vibrante, emprise sur son temps et qui le fait dans une langue individuelle. Elle rassemble en elle des enjeux contemporains, elle questionne la représentation du féminin, et d'un autre côté, elle suit la voie plus aérienne du haïku. Elle a de ces saisies qui restent dans la mémoire comme des paysages résistant à leur énigme. Elle débusque les apparences par une expression juste, offrant à l'être un rassemblement de ce qui le fragmente. Elle approche sans concession les stéréotypes de l'intimité de la femme et permet ainsi à une mémoire vivante d'ouvrir les pans du possible. Comme le rappelle Jean-Chapdelaine Gagnon dans sa présentation, Céline Fortin redit dans tous ses livres un seul combat, celui d'une femme partagée entre ses rôles de fille, amoureuse, mère, poète, artiste visuelle, amante de la nature et jardinière, toujours indignée par le vieillissement, le mal, la mort. Elle combat... Fin de la citation. Elle combat avec l'outil du poète, la beauté. Il y a donc beaucoup de pertinence à écouter cette voix, et la lisant, je ne cesse de me rappeler à quel point notre héritage aux éditions du Noroi lui est redevable. Et si éditer et écrire le poème était une seule et même chose. Céline?
Bonsoir. Oui. Comme c'est une anthologie, je vais lire dans le premier livre, au centre, et dans le dernier recueil, fait au Noroi. Alors, le premier livre s'intitulait « Femmes fragmentées » et je vais vous lire le chapitre 1 et qui s'intitule « Femmes ». Toi, la mère, ménagère du temps, de petits monstres, de petites ogresses, t'avalent le corps, t'éparpillent la tête, te morcellent le cœur. Dans ta bulle de banlieue, tu vas éclater et il va falloir tout éponger. Le chapitre 6. C'était au temps de ma mère d'avant, et elle ployait sous le silence gardé tout au long des siècles où son homme parlait pour elle. Mais il ne savait pas dire les mots par elle longuement portés, comme des enfants morts, paroles plusieurs fois avortées, paroles aujourd'hui enfantées une à une. Ma mère d'avant avait perdu toute autonomie, abdiquant tout désir, mais il couve, comme braise sous cendre, et mes sœurs entretiennent la flamme. Encore silencieuses et bâillonnées en contrées trop nombreuses, les femmes d'ici se disent et parlent à leur nom, mais leur discours emprunte souvent celui de l'homme, par la force du temps, par la force du pouvoir des mots. Il n'est pas si loin le temps de ma mère d'avant. Dans le deuxième recueil que je vais vous lire, ce sont les intrusions de l'œil, si je trouve la page. Alors, le titre du livre, Les intrusions de l'œil, le titre du chapitre, c'était « Comment s'écrivent nos désirs ?» Et voici la femme rose. Le corps figé à la taille dans un carcan de bronze se regarde vivre installé dans l'immobilisme, encagé dans la case, le dessin ou la feuille, dans la chambre, la maison ou l'univers. La femme rose occupe l'espace permis selon les circonstances de sa création. Elle se demande comment loger dans la si petite circonférence de son crâne les idées qui occupent son cerveau, les études, applications et expériences qui remplissent le cours d'une vie souvent trop brève. En plus de cela, de quelle manière procéder pour donner à lire seul l'essentiel? Finalement, comment s'écrivent nos désirs? Elle voudrait que la ligne, en percutant l'épiderme, éclate. Quand elle entend parler de proportions idéales, son désarroi s'accentue. Il devient évident qu'il lui faut réduire le volume de sa taille. Que de peine avant d'y arriver, et la sensibilité cesse lorsqu'intervient l'appareillage numéroté. La géométrie inflexible s'interpose dans le froufrou des masses. La courbe renforce l'idée qu'on se fait de la grâce. En cette fin de siècle, on renoue avec les rondeurs, et l'on remet à l'affiche poitrine engorgée, croupe pleine, musculature développée. Elle est deux, papillon de jour, à exiger l'impossible de la vie. Mais elle oublie de se compromettre. À chercher l'essentiel, mais elle vit de chimères. Deux, vivant un règne entier à craindre la solitude grise, et nier la vieillesse. Et voici dans le troisième recueil que j'ai choisi, Commandements, litanies et autres imprécations, le chapitre 1. Elle graine la terre pour la prochaine récolte, plante de minuscules arbustes en bordure de son carré de sable, afin d'éloigner le désert. Le fagot sur la tête, l'anneau encerclant la narine ou le bracelet au pied, pauvre enfant, née dans le tumulte, la fureur, la terreur, elle relève à peine le pied tant lui pèse la violence, le deuil, le joug patriarcal. Pendant ce temps, on fige l'horreur dans des musées, sous les pleurs et l'immobilisme des duègnes, une mèche de cheveux de la défunte sur leur cœur. Et comme ça s'appelle commandement, litanie et autres imprécations, je vais vous lire quelques litanies. Et si dans votre cœur vous voulez dire priez pour nous, vous pouvez le faire. Alors, bien sûr, ce sont des litanies qui s'adressent à la femme. Pas tout à fait la Vierge Marie. Reine de Saba, réconfort de Cupidon, revanche des ovaires, flamme de Sérigo, Vénus Hottentote, oiseau de paradis, lunure insoumise, virus rebelle, aventurine clinquante, dame de beau jeu, rose d'Irlande, pierre des chevaliers et diadème du sexe. Une étoile glisse sur la rampe du luxe. Manches de gaz, taille roumaine, crêpes doux, orlon louche, veste griffée du designer à la page, des jeunes filles au cou de pied cambré, défilent grimpées sur des tubes rigides ou des échasses minimales, à l'étroit, comme un col de carafe. La mine câline ou la nippe désabusée, chapeautée d'amples paratonnerres, ceintes de mauvaises plumes et de fausses gemmes, enroulées dans leurs pompes, poires et perles, les doigts chromés de simili-strass niellés, déambulent avec balancement des vertèbres et du bassin pour accompagner des styles plus rococo les uns que les autres ou pour exprimer ainsi le flou dans leur accord. Et dans le dernier recueil, qui s'intitulait « Un ciel laiteux », voici les célèbres haïkus. La chambre blanche. 1, 2, 3, 4, monte et descend et marche la jambe opérée. Un pétale rouge ne dit pas tout le bouquet, mais parle d'amour. La neige en son gris. La fleur dans un pétale, et moi dans mon lit. Allongée, debout, assise, couchée, levée, recouchée, je rêve. Et un dernier petit, bref comme l'été, au passage des nuages. L'hiver a failli passer sans gêne l'été dans notre jardin. À la vue des roses, me revient l'émouvante couleur des tulipes. Je berce mon âme dans le hamac suspendu aux branches d'érable. De bien grands soleils, hautains et fiers, se balancent au gré de la bise. Les feuilles piquées de petites taches tombent des saules en détresse. Quand l'automne arrive avant son heure, l'été part avec la pluie. Merci.
Merci Céline. Merci Catherine, Jocelyne, Céline, Jean-Marc. Merci à vous d'être là quand même. Nous sommes nombreux ce soir. C'est réjouissant quand même de penser que nos activités sont toujours suivies. Et elles seront bien sûr disponibles sur Radio Spirale dans quelques semaines. J'en profite pour vous inviter à notre lancement du mois d'octobre, le 16 octobre, à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal, 17h à 19h. Vous serez les bienvenus et vous aurez la chance de revoir les auteurs de ce soir, mais également les auteurs de l'année, la production de cette année. Pour nos prochaines lectures, pas de date d'arrêté, mais certainement en octobre. Surveillez notre site. Notre nouveau site sera probablement en ligne d'ici peu, quelques semaines, espère-t-on. Vous, comme vous avez nos annonces et nos publicités, continuez de nous suivre et continuez d'être présents à la poésie. C'est pour les lecteurs et les lectrices que nous écrivons. Merci à vous d'avoir été là et bonne fin de soirée. Thank you.